Oli Magazine avec les actualités internationales de la Radio des Nations Unies.
Bienvenue à cette émission hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Au micro, Philippe Wamba-Filon. Au sommaire de notre programme, examen de la situation au Rwanda par le Conseil de sécurité suite au rapatriement forcé des réfugiés rwandais et burundais par le Zaïre. Une correspondance depuis Kigali de Patricia Thomas à Radio Minua. Notre séquence Africascope, l'invité d'aujourd'hui, Madame Radiante Mamouji, experte de la FAO, nous évoque la participation des femmes au développement en vue de la prochaine conférence mondiale sur les femmes à Beijing en Chine. A tout de suite pour le développement de ces thèmes. Tout d'abord, notre bulletin d'information.
La Radio des Nations Unies, notre bulletin d'information. L'Auditeur Général poursuit sa visite officielle au Portugal. Devant l'Institut de droit international à Lisbonne, le secrétaire général a prononcé un discours dans lequel il a mis en relief la nécessité de nouveaux principes de droit international pour rationaliser, encadrer et réguler la conduite des États. L'ambassadeur José Luis Jesus, actuellement ambassadeur du Cap-Vert au Portugal, se rendra à New York afin de commencer son travail et peu après visitera la région des Grands Lacs. Il se rendra en Éthiopie afin de s'entretenir avec le président et le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Il doit également se rendre au Burundi, au Kenya, au Rwanda, en Ouganda et au Zaïre. À Genève, la sous-commission des droits de l'homme achève son débat sur l'administration de la justice. Il entame l'examen de la discrimination à l'encontre des populations autochtones. La sous-commission a poursuivi ses discussions sur les questions relatives à l'administration de la justice et aux droits de l'homme des détenus. Elle a ensuite entamé l'examen de son point de l'ordre du jour consacré à la discrimination envers les populations autochtones. Le comité ad hoc pour la création d'une cour criminelle internationale examine la question de l'arrestation et de la remise de l'accusé. En effet, le comité ad hoc pour la création d'une cour criminelle internationale a entamé l'examen de la question de l'arrestation et de la remise de l'accusé à la lumière des documents élaborés par le groupe de travail présidé par M. Gérard Hafner de l'Autriche. Le comité pour l'élimination de la discrimination raciale adopte, entre autres, des décisions sur la Bosnie, le Burundi et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il achève les travaux de sa 47e session. Toujours à Genève, le comité pour l'élimination de la discrimination raciale a conclu au Palais des Nations les travaux de sa 47e session, laquelle s'était ouverte le 31 juillet.
ONU, information, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies.
La communauté internationale demeure très préoccupée par la situation au Rwanda et au Burundi, et tout particulièrement suite à la décision du gouvernement zaïrois ayant procédé au rapatriement forcé des réfugiés rwandais et burundais, situation qui, rappelons-le, pourrait fragiliser les efforts de paix et de stabilisation de la région des Grands Lacs. En effet, le Conseil de sécurité a demandé instamment au Zaïre de reconsidérer sa politique déterrée de rapatriement forcé des réfugiés rwandais et burundais de son territoire. Le Conseil invite le gouvernement zaïrois à continuer d'apporter une assistance aux réfugiés rwandais et burundais. Le président du Conseil de sécurité, M. Nugroho Vismorti de l'Indonésie, a fait une déclaration au nom des membres du Conseil. Écoutons-le.
Est-ce que le Conseil considère que Zaïre and the other states which have accepted refugees from Rwanda and Burundi make an important contribution in spite of the...
Le Conseil estime que le Zaïre et les autres États qui ont accepté des réfugiés du Rwanda et du Burundi apportent, malgré les énormes difficultés auxquelles ils se heurtent de ce fait, une contribution importante à la paix et à la stabilité dans la région. Leur contribution revêt une importance particulière étant donné le génocide qui a eu lieu au Rwanda et la possibilité d'une autre effusion de sang au Burundi. Le Conseil note également que le gouvernement rwandais s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour assurer dès que possible le retour de ses nationaux en toute sécurité et l'engage à poursuivre ses efforts pour tenir des engagements qu'il a pris à cet égard. Le Conseil demande instamment au gouvernement zaïrois d'honorer ses obligations humanitaires en ce qui concerne les réfugiés, y compris notamment celles qui découlent de la Convention internationale sur les réfugiés de 1951, et de reconsidérer, en vue d'y mettre fin, sa politique déclarée de rapatriement forcé des réfugiés au Rwanda et au Burundi.
Dans le cadre de son examen de cette question, le Conseil de sécurité était saisi d'une lettre adressée au secrétaire général par le Premier ministre de la République de Zaïre, M. Kengo Wadondo. Dans cette lettre, le Premier ministre zaïrois fait valoir notamment que l'adoption de la résolution 1011 par le Conseil de sécurité ne lui laisse pas d'autre choix que de demander au secrétaire général de lui indiquer les dispositions prises au niveau des Nations Unies en rapport avec le ou les nouveaux pays d'asile où devront être évacués les réfugiés rwandais et burundais. À défaut d'indications précises, ajoute le Premier ministre zaïrois, son gouvernement entend évacuer les réfugiés vers leur pays d'origine à charge de la MINUAR et du gouvernement de leur pays respectif. Selon M. Kengo Wadondo, la décision du gouvernement zaïrois est la suite logique de l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité dont l'objectif est de protéger le Rwanda contre les prétendues tentatives de déstabilisation des ex-forces armées rwandaises et des réfugiés rwandais se trouvant dans les pays voisins, notamment le Zaïre. Soulignons que le Conseil est également saisi de la réponse du secrétaire général au Premier ministre zaïrois. Le secrétaire général indique que, compte tenu de l'importance du sujet et de la considération qu'il y attache, il voudrait lancer un appel pressant pour que le gouvernement zaïrois continue d'apporter aux réfugiés rwandais et burundais l'assistance propre aux traditions de générosité du peuple zaïrois. Terminons notre information par une note quelque peu optimiste, car le Haut Commissariat pour les réfugiés a d'ores et déjà installé deux centres d'accueil au Rwanda afin de recevoir les réfugiés venant de Goma et de Bukavu, ainsi qu'un centre Burundi dans la ville frontalière de Gatumba. De l'eau et des biscuits riches en protéines ont été distribués aux réfugiés qui se sont enregistrés avant d'être transportés vers leur village. Au Rwanda et au Burundi, le Haut Commissariat pour les réfugiés a prêté ses camions pour transporter les réfugiés vers les centres d'accueil. Enfin, au Burundi, les représentants du Haut Commissariat aux réfugiés négocient avec les autorités du pays dans le but de créer des centres d'accueil pour les personnes revenues dans leur village mais qui ne peuvent y rester en raison de luttes ethniques. De Kigali, notre correspondant Patricia Tomé nous fait le point.
Environ 13 000 réfugiés rwandais ont été expulsés par le Zaïre depuis samedi dernier. 6 000 sont arrivés des camps du Nord Kivu, tous expulsés du camp de Mugunga, qui compte 120 000 réfugiés. 7 000 environ ont été renvoyés par la force des camps du Sud Kivu, dont 5 ont été fermés par les autorités zaïroises. A noter que dans cette zone sud, les camps de Bukavu et d'Uvira, 100 000 réfugiés rwandais et burundais se sont enfuis dans les collines pour échapper aux expulsions. Au Rwanda, l'accueil des 13 000 premiers réfugiés s'est fait dans le calme. Le ministère rwandais de la réhabilitation est le principal responsable de l'opération. Le Haut Commissariat aux réfugiés en est le principal support. Les autres agences de l'ONU, les organisations non gouvernementales et la MINUAR manquent un rôle de soutien logistique. Selon l'ambassadeur Shahriar Khan, représentant spécial du secrétaire général à Kigali, tout le monde est d'accord pour que les réfugiés rwandais expulsés soient immédiatement intégrés dans leur commune d'origine. Il n'est pas question de créer de nouveaux camps permanents au Rwanda. Parmi les 13 000 réfugiés déjà rentrés, 1200 ont été transférés vers leur commune. Selon le HCR, une cellule de crise a été mise en place à Kigali ainsi qu'au nord du pays pour coordonner les moyens mis en œuvre. « Nous ne sommes pas en situation d'état d'urgence », a déclaré un représentant du HCR, « mais nous sommes prudents ». Le gouvernement rwandais a pour sa part déploré officiellement l'attitude des autorités zaïroises, mais a également déclaré qu'il était prêt à recevoir les réfugiés de manière digne. On notera qu'une centaine de réfugiés expulsés ont été placés en détention, suspectés d'être impliqués dans le génocide d'avril 1994. Ce jeudi, le gouvernement zaïrois vient de suspendre l'expulsion de réfugiés rwandais et burundais. La frontière zaïroise est fermée. Cette suspension serait due à un possible accord avec le HCR pour la mise en place d'un retour organisé des réfugiés. l'arrivée imminente de Mme Sadako au Qatar, au commissaire pour les réfugiés à Kinshasa, à tout le soutien du Conseil de sécurité pour tenter d'infléchir la position des autorités zaïroises. Patricia Tomé, Radio Minuar, à Kigali, pour la Radio des Nations Unies.
Notre séquence AfricaScope, l'invité d'aujourd'hui, Madame Randy Mamoun, experte de la FAO à Rome, de passage au siège de l'ONU, elle nous parle d'un séminaire préparatif en vue de la prochaine conférence mondiale sur les femmes à Béthune.
En fait, nous avons organisé plusieurs séminaires, mais le plus important était celui que nous avons organisé pour la Fédération internationale des producteurs agricoles. Ce séminaire avait pour but d'attirer l'attention internationale sur la situation des femmes rurales. Nous avons choisi cet organisme non gouvernemental à cause de l'impact qu'il a à travers le monde. Rappelons que la Fédération internationale des producteurs agricoles regroupe à peu près 500 millions de membres à travers le monde et est représentée dans presque 60 pays.
Dont les femmes rurales du continent africain.
Absolument.
Quels ont été les problèmes que vous avez considérés comme prioritaires durant ce séminaire?
Durant ce séminaire, nous avons abordé plusieurs problèmes, dont le plus important est celui de la reconnaissance du statut de la femme en tant qu'agricultrice, chef d'entreprise agricole ou chef d'unité de transformation de produits agricoles. Nous savons que les femmes ne sont pas identifiées comme des agricultrices à part entière et ceci se traduit par un accès limité au crédit, par un accès limité aux inputs agricoles comme les fertilisants, les ressources naturelles, les équipements.
Donc, il y a eu des solutions préconisées pour encourager cette intégration, si je m'exprime ainsi, de la femme au sein de responsabilité de la vie rurale.
Des solutions, oui. Les séminaristes ont fait des propositions. La première chose est la mise au point d'une campagne internationale pour sensibiliser les gouvernements, les donateurs, l'opinion internationale et surtout les femmes elles-mêmes pour qu'elles se rendent compte qu'elles sont des agents économiques actifs et qui peuvent apporter beaucoup pour en particulier assurer la sécurité alimentaire au niveau des ménages et au niveau national.
Mais ce sont aussi des actrices reconnues quand même pour le développement général dans le pays.
Non. Parce que c'est ce qu'on appelle la population silencieuse. Ce sont des personnes qui passent leur temps à travailler et qui n'ont pas le temps d'aller assister à des réunions, d'être représentées dans les grandes instances nationales, si bien qu'on les ignore. Et en particulier, ceci est encore plus grave dans la mesure où ces personnes sont dans des zones difficiles d'accès, et ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à exprimer leur opinion. Et à partir de là, elles deviennent tout à fait invisibles dans les plans de développement.
En fait, nous avons besoin ici d'une opération de vulgarisation, et on a besoin d'informer l'opinion publique pour la prise de conscience de ses responsabilités, n'est-ce pas?
C'est pour ça que les séminaristes ont proposé cette campagne d'information, de communication, d'éducation, de vulgarisation, et cela sera supporté par une amélioration de la collecte des données des agrégés par sexe. Nous devons commencer par une amélioration des statistiques pour que les plans nationaux puissent réellement tenir en compte cette dimension des femmes rurales qui ont déjà une contribution très très importante dans le développement économique et social de leur pays.
Merci d'avoir été à notre compagnie. Toute l'équipe de la Radio des Nations Unies vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, à la même heure et sous les mêmes longueurs d'onde. Au revoir.